Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de la confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche et de formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou le résumé de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip saison 3, épisode non filmé exceptionnellement. Pour ceux qui ont déjà vu le fond filmé, en fait j'ai un retour vidéo sur mon écran qu'on voit dans le fond du podcast. Et la caméra qui gère ce fond ne marche pas, elle bug, elle s'éteint. J'ai essayé plusieurs fois et j'ai pas envie de m'embêter à tourner et monter quelque chose si c'est pour qu'il y ait un écran qui s'éteigne, qui fait partie du décor en fait. Donc, retour aux bases, petit épisode audio. De toute façon, je ne vais pas vous le cacher, les versions vidéo pour l'instant ne fonctionnent pas tant que ça. Hein. Pour être plus précis, 6 et 7 vues aux dernières vidéos ces derniers temps. Donc, tant pis, on va essayer de reprendre les bonnes habitudes et se remettre à la version audio. Donc, je suis... content de revenir sous ce format, j'espère que je vais réussir à faire porter autant ma voix que quand je suis filmé, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte de l'importance de se sentir regardé pour bien parler, et je pense que ça me remet dans un exercice qui est proche du cours, donc je me sens plus éloquent avec une voix qui porte mieux quand je suis filmé. Donc là, je ne suis pas filmé, on va voir si j'ai toujours gardé mes compétences de podcasteur quasi professionnel après quasiment un an de podcast. Ça me fait penser que je devrais essayer de faire quelque chose pour les 1 an. Je vais y réfléchir, je ne sais plus exactement quand c'est, mais je pense que ça ne va pas tarder. Voilà, je vais réfléchir, on verra. Alors, quelle semaine, encore une fois, beaucoup de choses se passent, à la fois dans ma vie perso et pro, donc parfois je vais, sur les prochaines semaines, pas forcément partager grand-chose, mais en tout cas, j'ai quand même une vie assez dense en ce moment, ça c'est sûr. Et j'ai quelques points à vous partager et on va faire un petit sommaire. Allez, on va essayer de tenir le rythme que j'ai essayé d'engager la dernière fois. J'aimerais vous parler d'échanges que j'ai eus à propos et de mes réflexions d'ailleurs à propos des entretiens que j'ai commencé à mener, la structure que je vous ai donnée, le fait d'évaluer des programmes, etc. J'ai eu une rencontre cette semaine qui m'a fait un peu mieux comprendre ce milieu-là, dont j'aimerais vous faire part. J'ai avancé sur des contractualisations, mais je ne sais même pas ce que je vais vous dire dessus. Ça se trouve, je vous dirai juste ça, parce que je ne sais pas si j'ai développé une compétence spécifique très pertinente et importante à vous transmettre. Le retour de LinkedIn et ma stratégie vis-à-vis de LinkedIn. On va parler d'une intervention que j'ai à faire la semaine prochaine qui est face à un public... spécial et potentiellement compliqué, donc je vais vous expliquer ce que je compte faire et puis surtout vous aurez mon retour la semaine prochaine en espérant que ça se passe bien. Et j'ai un petit peu avancé en réflexion sur mon sujet de thèse. Voilà tous les sujets que j'aimerais aborder dans ce podcast, dans une structure pas forcément thèse, entreprise, développement personnel, on verra, mais on va essayer de se prêter quand même à cette organisation, et on va commencer par la petite rubrique thèse, qui est, j'ai réfléchi à mon sujet de thèse, et je pense que ça commence à se dessiner. En fait, je suis assez satisfait, comme je l'ai déjà dit, d'être baigné dans le milieu dans lequel, finalement, ma thèse a de la pertinence. Et pour rappel, vu que ça commence à faire quelques épisodes que j'en parle pas, ma thèse, c'est autour de la confiance dans la santé. Et plus particulièrement, j'ai vu que ce qui était pertinent, c'est en quoi le relationnel, donc on peut l'appeler confiance, relationnel, communication, a un impact sur l'observance thérapeutique, c'est-à-dire comment la relation entre un patient et un professionnel de santé entraîne à ce que le patient suive, applique les recommandations qui sont déterminées entre le patient et le professionnel de santé. En fait, c'est un sujet de santé publique majeur, l'observance, l'adhérence thérapeutique. Il y a plusieurs... je fais des cours un petit peu dessus, donc évidemment, il y a un historique, etc. Il y a des certains angles d'approche, de se dire que le patient n'est pas juste quelqu'un qui applique ce que le médecin tout sachant ordonne de faire, Donc aujourd'hui, on est plus sur une articulation, une négociation entre ce que le patient est prêt à faire et ce que le médecin préconise de faire. Et en fait, un sujet qui est primordial, c'est de savoir comment on fait en sorte que les patients suivent les recommandations. Alors, les recommandations, ça peut être de prendre tel médicament à tel moment, mais ça peut aussi être suivre, par exemple, dans des cas d'AVC ou de cancer, suivre l'alimentation, le sommeil, se remettre au sport, etc. Et donc, en fait, avec ce pas de recul là de ma thèse, j'ai toujours été intéressé par la confiance, je suis toujours intéressé par la confiance. Mais ce que je comprends de la confiance, c'est que c'est un petit peu un mot valise dans lequel on met du relationnel, de la communication et de la manière dont on perçoit les autres. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça peut influencer sur le bon suivi en fait médical des patients et comment les patients arrivent à mieux se soigner s'il y a une meilleure relation. Donc en partant de ce principe-là, je me vois plus comme, c'est pas à tester, hein, mais ce que j'envisage, c'est de pas forcément être un thésard sur la confiance en santé, mais plutôt expliquer l'impact du relationnel sur l'observance en santé avec une grosse variable d'intérêt qui est la confiance. Et au-delà de ça, il y a des choses qui m'ont frappé ces derniers temps, c'est un autre cadre théorique en psycho, c'est la satisfaction ou la frustration, mais justement les besoins fondamentaux. Donc à quel point une relation peut satisfaire ou frustrer des besoins fondamentaux, ou inassouvir d'ailleurs, c'est-à-dire que ça peut être très plus, très moins ou très moyen. Et ces besoins fondamentaux, je ne vais pas faire un cours, hein, mais c'est juste voilà, pour vous remettre un peu en tête ce que j'envisage de faire. Les besoins fondamentaux sont autonomie, compétence et affiliation. C'est-à-dire que, globalement, pour motiver quelqu'un, pour engager quelqu'un, il faudrait respecter son autonomie, sa motivation et sa compétence, qui sont, je vais pas rentrer dans les détails et dans les définitions, mais donc, j'ai un peu défini, grâce à un ami avec qui j'ai discuté cette semaine, une précision de mon sujet de thèse qui serait, en quoi avoir une relation avec un professionnel de santé peut entraîner une meilleure observance si cette relation fait en sorte que ses besoins fondamentaux soient satisfaits et aussi qu'il y ait une confiance. Et moi, mon postulat, c'est que la confiance vient d'une perception de l'autre, de la personnalité de l'autre, favorable, positive, que c'est une bonne personne. C'est-à-dire que les hypothèses générales de ce sujet de thèse qui n'a pas démarré, ce serait de dire que pour être observant, appliquer des recommandations, il faut voir la personne comme étant quelqu'un de bien, et il faut que cette personne fasse en sorte qu'on soit dans un dispositif qui favorise l'assouvissement de nos besoins fondamentaux. J'espère que ça ne vous paraît pas très théorique, parce que justement c'est un sujet qui vient du terrain. Donc ça, c'était un peu la version psychosociale de le dire, et encore j'y suis allé juste. Pour ceux qui sont pas en psychosocial, l'intérêt, c'est vraiment de se dire en quoi moi, ma manière de percevoir la personne, et en quoi et comment la personne peut agir avec moi pour que je me sente bien dans mon parcours de soins et que je sois prêt à être d'accord pour prendre tel médicament ou suivre telle recommandation. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je crois voir comme étant intéressant par les personnes avec lesquelles j'interagis qui sont dans le milieu. Et je crois qu'avec un tel sujet, je me sentirais vraiment bien de me dire que je travaille sur une thématique qui a de l'importance pour les personnes. Et ça ferait un petit peu remettre au centre ma pertinence et le sens que j'ai à faire de la recherche, c'est-à-dire essayer de comprendre quelque chose de la vraie vie pour les gens de la vraie vie. Et donc, évidemment, je pourrais sortir des modèles, des dimensions, tester l'importance de telle dimension, et puis voilà, faire de la recherche pour les chercheurs. Mais je crois que, et c'est peut-être juste une pression de mon contexte de thèse, je crois que j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire de la recherche pour les gens, surtout en santé. Je pense qu'il est plus urgent de faire de la recherche pour les patients ou les médecins que de faire de la recherche pour les chercheurs. Et donc voilà, l'étendue de mes réflexions. Je suis satisfait de ce pas de recul que je fais, et je suis dans une phase assez positive de non-pression. Et en fait, cette liberté, cette non-pression m'amène finalement à revenir à la thèse sans me dire que je dois y revenir, juste de la revoir de manière plus claire et plus sans pression, en fait, tout simplement, plus libre. Ça me fait penser du coup que je pense que je parlerai de cet état mon développement personnel, où j'en suis, après la rubrique entreprise, parce que ouais, je pense que ça me met assez en avant la manière dont je me sens en ce moment, et je vous partagerai ça après la rubrique entreprise, voilà, pour le watch time, sachant que c'est pas du watch time, c'est du audio time, mais restez jusqu'au bout. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me communiquer votre entrain si vous appréciez ce podcast, à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, potentiellement me faire des retours. Maintenant qu'il y a sur YouTube, si vous pouvez aller lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement sur YouTube, ça m'aiderait beaucoup. Je sais que c'est le discours que vous entendez partout. Moi, je peux vous donner mes chiffres. Hein. Sur YouTube, le premier épisode a fait 35 vues. Les autres épisodes ont fait entre 6 et 10 vues. Pour être franc, je passe une partie de mes dimanches pour filmer, monter, poster. J'essaye de découvrir. Je sais que c'est pas du contenu, c'est pas le meilleur contenu de la planète. Mais en tout cas, si vous appréciez déjà la version audio et que vous avez déjà mis un petit like ou un petit abonnement sur Spotify, franchement, un petit coup de pouce sur YouTube, je suis pas contre. Bref, je vais pas m'étaler plus que ça dessus, mais j'espère que le message est passé. Voilà pour la petite transition pub qui nous mène à la rubrique entreprise, qui va être un peu plus consistante. Je vais commencer par ce que je sais pas, par le sujet sur lequel je ne sais pas trop ce que je vais vous partager, qui est les contractualisations. Alors, je me lance sincèrement, il y a juste marqué sur mon carnet contractualisation x2. Donc, je pense que j'ai juste une bonne nouvelle à vous dire, c'est que je suis en train de contractualiser deux contrats qui sont pas des nouveaux contrats. J'avance ce que je peux vous transmettre, c'est que ChatGPT est très bon pour faire des contrats et que j'ai fait quelque chose qui peut être intéressant de vous partager. C'est que, en fait, je rédige. Donc moi, ma manière d'utiliser ChatGPT, c'est que c'est toujours une version améliorée de mon brouillon. Donc je fais le brouillon de moi-même et ensuite je lui dis, voilà, imagine que tu es un expert avocat, blablabla, améliore mon paragraphe. Mais aussi, ce que je fais, c'est d'essayer de trouver des failles avec ChatGPT. Pour mon premier contrat, le contrat avec LVK, la Vikintsugi, j'ai décidé de envoyer mon contrat à ChatGPT, bien sûr en anonymisant toutes les autres infos, mais en disant, imagine que je suis en conflit avec la structure, et je l'ai fait des deux sens évidemment, ou que la structure est en conflit avec moi, tu es l'avocat d'une des deux parties, essaye de trouver la faille pour me soutirer de l'argent ou pour m'arnaquer. Et en faisant ça, ça lève beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on le refait, plus on voit que les modifications sont mineures et ne fonctionnent plus vraiment. Et donc, ça dilue l'expertise. Et quand on se dit que, bon, maintenant, les modifications que ChatGPT me propose, ouais, c'est vraiment, ils tournent en rond ou c'est un truc que j'ai déjà dit par ailleurs, moi, je me dis, ok, c'est bon, j'estime que entre ce que j'ai pensé et les trous que ChatGPT a essayé de trouver, j'ai un truc assez correct. Après, j'essaye quand même d'avoir des clients avec lesquels ça se passe bien, avec lesquels je construis une relation. Mais voilà, c'est toujours bien d'essayer de faire le tour. Le contrat sert à ça, hein, ça sert à prévoir tout, donc j'essaye de prévoir tout. Et c'est pas lié à une méfiance, c'est lié plutôt à pas une confiance totale, déjà. C'est bien de poser le cadre, et aussi c'est bien, et ça fait du bien, je sais pas s'il y en a qui commencent leur activité, mais il y a un sujet qui est important de dire, c'est que moi j'avais peur de faire des contrats, et aujourd'hui je pense que je contractualiserai dès que je peux, parce qu'en fait c'est comme si c'était un rapport d'accord sur lequel, bon, en fait, ça sert à ça aussi, c'est pas juste, si je fais n'importe quoi, qui a l'argent, comment on règle les litiges. C'est aussi une bonne opportunité de se poser les bonnes questions sur comment notre collaboration va fonctionner. Et en fait, c'est un peu un support de la manière dont on va s'organiser, et c'est vraiment comme ça que je le vis maintenant, et comme ça que je le vends. Évidemment que c'est aussi pour sécuriser le fonctionnement, la manière dont je serai rémunéré, etc. Mais voilà, en fait, le contrat permet de se dire, attends, je commence quand ? T'as besoin de combien d'heures ? Est-ce que c'est en heures qu'on compte ? Ou est-ce qu'il faut que je sois disponible à certains jours ? La rémunération, tu me payes quand ? Je t'envoie une facture ? Ou alors, à partir de la signature du contrat, tu me payes tous les mois ? Qu'est-ce que t'as besoin ? Qu'est-ce qui est de ta responsabilité ou de la mienne ? De quoi moi j'ai besoin ? Et en fait, quand on se pose ces questions, eh ben on est en train finalement de préparer un contrat et finalement avoir juste l'habitude de proposer la contractualisation, eh ben ça met à plat tout ça, c'est écrit quelque part. S'il y a un litige, on peut y revenir, mais surtout, bah, ça permet d'éclaircir une collaboration et pour ça, j'en suis assez satisfait. Alors, autre sujet de cette semaine, c'est globalement la reprise de LinkedIn qui va me permettre de pouvoir vous échanger deux, trois idées. Alors, j'ai repris LinkedIn avec bah, le trophée que j'ai gagné, donc j'ai pu faire un post. Et puis, j'ai fait un autre post aussi cette semaine. Et bah, en fait, ça me donne envie de reprendre LinkedIn. Et je vais reprendre en faisant un post par semaine, je pense, et sans même en fait m'obliger à faire un post par semaine. Mais disons que j'ai déjà quelques idées, je trouve, et puis je trouve ça bien. Donc avec un objectif non obligatoire de un post par semaine, ça me semble bien pour plusieurs raisons. Déjà, me permettre le temps de rédiger sans utiliser ChatGPT parce que 99% de mes posts étaient finalisés ou co-écrits avec ChatGPT. Hein. C'est jamais juste écris-moi un post sur ça. Comme je l'ai dit, je fais toujours brouillon, ChatGPT, relecture, réaffinement, et ensuite je rajoute quelques trucs. Mais bah, j'ai eu des retours sur mes posts qui m'ont dit que c'était pas mal sans ChatGPT. Et en fait, je me dis qu'il y a un moment quand même, surtout dans la rédaction, et après avoir fait quasiment, bah, je pense que je peux compter en centaines de posts, 3 posts par mois pendant au moins 10 mois, donc ouais, peut-être pas en centaines, mais plusieurs dizaines de posts. Et bah, je pense qu'à un moment, il va falloir assumer que je suis capable d'écrire, que je suis capable d'être intéressant, et que ChatGPT n'est pas la solution à chaque activité que je puisse faire. Et donc, pourquoi pas écrire moins? Écrire mieux, prendre du plaisir à écrire parce que je veux transmettre des vrais messages et pas juste me dire j'ai 3 posts cette semaine, je dois faire ça, ça, ça. Et peut-être que de cette manière, je vais un peu plus me retrouver, sachant que je vous disais il y a quelques semaines que voilà, j'étais un peu perdu sur LinkedIn. Et je pense que, comme beaucoup de choses, et on y reviendra dans le développement personnel, je pense que avoir rendu chaque seconde obligatoire de ma vie, a fait perdre beaucoup de plaisir et donc on perd du sens en fait à baisser la tête et à faire les choses. Bref, je ne vais pas parler tout de suite du développement personnel, mais vous avez une petite idée de ce que je vais dire maintenant. Alors la reprise de LinkedIn, ça a plusieurs choses positives. Bon, déjà ça fait plaisir d'avoir des likes, mais bon, voilà. Et en plus on sent qu'on a un retour du réseau qui vient aussi avec le retour de notre bah, de nos propres posts. C'est quand même, et je le répète, pour ceux qui veulent se lancer, un outil formidable pour faire du réseau. Maintenant, je le vois comme nécessaire. En tout cas, bon, je suis prêt à accepter que je sois dans le champ de la santé et que dans ce milieu-là, ce soit pertinent. Mais sincèrement, je pense que c'est pertinent dans tous les milieux. Et donc, voilà, je vais essayer, mais c'est... Bon, je vais finir mes phrases avant de les contredire. Je vais essayer de reprendre plus tranquillement et de voir si c'est quelque chose qui marche. Le problème, c'est qu'en fait, je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que je travaille énormément au début, et ensuite, j'essaye moins, et je dis, ah, un poste par semaine, ça suffit. Et en fait, le souci, c'est que j'ai vu tout le monde dire ce genre de choses. Tous les entrepreneurs, que ce soit en parlant de LinkedIn ou de leur activité, finissent à un moment par dire, bon, c'est bon, je vais lâcher prise, oh, je peux faire tourner mon activité seulement en 15 heures de travail par semaine. Mais je pense que ce serait hypocrite de ne pas considérer que le travail passé n'a pas permis de pouvoir avoir cette liberté aujourd'hui. Donc, je vais essayer de tenir le rythme de un poste par semaine, sans vous dire que c'est ce qu'il faut faire dès le début, parce que je ne le sais pas en fait. Pour essayer, il faut essayer de le faire dès le début. Ce serait faux de croire que c'est, je sais plus, 6 mois à presque 1 an, ça doit faire, ouais, entre 6 et 10 mois de publication régulière à 3 par semaine sur LinkedIn, soit totalement décorrélé de ma facilité aujourd'hui à faire un post par semaine et pouvoir quand même intéresser. Sachant que j'ai une problématique, c'est que j'arrive pas à faire des gros posts qui font beaucoup de vues. J'ai toujours mes 30, 40 réactions. Et puis c'est tout. Maintenant, est-ce que je veux vraiment faire un post avec des centaines de vues? Je pense que je voudrais le faire quand j'aurai de la pub. Par contre, aujourd'hui, vraiment partager des idées et plus me forcer à poster, mais dire des choses qui m'intéressent, sachant que je disais déjà des choses qui m'intéressaient, mais c'est différent de avoir une thématique qui nous parle tellement qu'on a envie de la diffuser, ou s'obliger à diffuser des choses et donc trouver des choses qui nous intéressent. Je ne sais pas si c'est clair, mais maintenant, vu que j'ai plus envie de me forcer, eh ben, si je parle d'un truc, c'est que vraiment, ça sort de ma tête et j'ai un besoin de le transmettre. Avant, j'avais un besoin de transmettre quelque chose et j'y trouvais quelque chose qui m'intéressait. Donc voilà, il n'y a jamais eu de choses qui ne m'intéressent pas du tout, parce que j'ai toujours essayé de trouver du sens. Mais c'est quand même plus simple de ce moment-là. Et je mets ma petite hypothèse que c'est peut-être plus de cette manière-là qu'on fait des posts qui fonctionnent le mieux. Parce que au-delà de toutes les règles, je pense que la meilleure manière de connecter aux personnes, c'est de sortir quelque chose qui vient vraiment de notre tête et qui a moins de stratégie que de cœur dans le message. Et ben, on va essayer cette stratégie. De toute façon, j'avoue que, et encore une fois, ce serait hypocrite de dire que je peux pas me permettre de dire ça. Alors, je vais réfléchir à comment tourner la phrase. Ce serait hypocrite de mettre à l'écart le travail passé pour dire que c'est la seule manière de faire maintenant. Mais étant donné que j'ai la chance que mon activité semble se lancer et que j'ai de nouvelles opportunités qui continuent, c'est-à-dire que je vous ai dit que mes contrats se lançaient, mes prestations se lancent, mais j'ai encore de nouveaux appels, de nouvelles opportunités. Donc voilà, je sens que c'est parti et que donc je peux me permettre de faire des tests vus à la baisse. Mais ce serait hypocrite de dire que je me... Bon, j'arrive pas à tourner cette phrase, mais j'espère que vous avez compris. Bref. Voilà pour LinkedIn. Ça m'a aussi permis de rencontrer quelqu'un cette semaine. Comme d'hab, je ne demande pas si je peux parler des personnes dans mon podcast. Donc, vous n'aurez pas le nom. C'est pas dramatique. Je pense que finalement, on s'en fiche. J'ai rencontré quelqu'un qui travaille au Québec et qui cherchait quelqu'un pour travailler avec lui sur des contrats qu'il peut avoir en France. Et en fait, lui, sa thématique, c'est l'évaluation de programme. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que quand je vous ai dit la semaine dernière que j'avais l'impression de travailler un peu sur les mêmes choses, c'est-à-dire l'évaluation de dispositifs ou de programmes, et bien en fait, je commençais à toucher du doigt sans le savoir quelque chose qui existe et qui existe très bien au Québec et peut-être qui commence à exister en France, qui s'appelle l'évaluation de programme. Et donc, il y a des choses qui se font dans les services publics, qui est des hôpitaux, des services, des équipes, des instituts, qui demandent à des psychologues ou non d'évaluer leur programme, donc de faire des évaluations d'effet, c'est-à-dire est-ce que nos processus marchent, mais aussi potentiellement pourquoi et comment vous avez mis en place tel dispositif, tel programme, et comment on peut le critiquer, l'améliorer. Et donc, bah, c'est marrant parce que j'ai l'impression que je touche à quelque chose de nouveau qui existe. Et je vais un petit peu m'intéresser à ce sujet de l'évaluation de programme parce que bah, on dirait que c'est ça que je fais sans le vouloir. Et donc, voilà ce que permet LinkedIn aussi, c'est de me remettre dans un réseau, redécouvrir des gens sans me mettre de pression et bah, avancer. Vraiment, j'ai l'impression d'être chercheur aussi dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je sais pas comment dire, je suis un petit peu un cueilleur, chasseur de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je butine en fait. Je me promène, je rencontre des gens, on me donne telle idée, on me donne telle idée, je fais quelque chose et puis quelqu'un me sort un modèle et je me dis, ah tiens, c'est vrai que ça, ce serait intéressant. Enfin, je le redis et j'espère que vous l'aurez compris si vous m'écoutez depuis le début. Mais et c'est en fait ce que les gens me disaient depuis le début, c'est que le réseau, c'est imprenable comme force pour faire de l'entrepreneuriat, parce que les idées, on ne peut pas les avoir toutes seules. Et même le soutien, le fait de se dire qu'on ne fait pas quelque chose tout seul, que quelque chose existe, et puis voilà, en fait, ouvrir des portes, tout simplement, ouvrir des portes de réseau, c'est-à-dire pouvoir rencontrer des gens de plus en plus haut placés, ou en tout cas qui peuvent nous permettre de faire ce qu'on veut faire, mais aussi ouvrir des portes de réflexion. parce que je ne serai jamais sociologue, psychologue clinicien, psychologue du travail, anthropologue, ingénieur, manager. Je ne pourrai jamais avoir toutes les casquettes, même si j'adore essayer de le croire, essayer de le faire. Mais bon, quelqu'un qui a 15-20 ans d'expérience pourra toujours nous apprendre quelque chose, et c'est comme ça que nous, nos 15-20 ans d'expérience, serons riches. Donc voilà pourquoi relance de LinkedIn, tranquille, parce que j'ai envie d'exprimer des choses, je pense que ça peut mieux fonctionner comme ça, et je rencontre des personnes qui sont intéressantes. Et en plus, troisième argument pour reprendre LinkedIn, c'est le fait que, en fait, j'ai pensé à tout simplement me remettre en étant disponible pour avoir du travail. Donc pas officiellement, parce que voilà, je trouve qu'on comprendrait pas très bien ce que je fais si sur LinkedIn on voit un peu open to work, etc. On pourrait croire que je cherche un CDD, CDI, mais il y a une fonction sur LinkedIn où on peut simplement mettre qu'on est intéressé par les offres. Et du coup, en fait, j'ai des notifications d'offres où j'ai mis, voilà, chercheur, formateur, et on peut mettre, voilà, je suis en recherche de contrats freelance, etc. Et en fait, bah, y a des personnes qui sont venues me voir en disant « on cherche des gens dans tel domaine, est-ce que ça t'intéresse ?» Sachant que pour le coup, y a un sujet qui m'intéresse où je vais envoyer mes documents, et ça se trouve, voilà, je vais pouvoir trouver une structure qui est intéressée par ce que je fais, en tout cas faire de la formation associée à cette structure. Et en plus, moi, bah, je peux postuler à des offres de formateurs indépendants, de chercheurs indépendants, ou des choses qui sont un peu plus ou moins proches, où je me dis, oui, je suis capable de le faire. Donc évidemment, je ne vais pas faire du travail d'ingénieur, mais il y a des choses, par exemple, voilà, la dernière fois, il y avait quelque chose autour de la rédaction d'articles, pas scientifiques, mais d'articles de blog, en psychologie. Donc voilà, je fais ni de la recherche ni de la formation, mais il y a des choses auxquelles on s'attend pas forcément. On se dit, ah mais ça je peux le faire, ça fait quasiment partie de mes tâches en tant que moi, ma formation de psychologue du travail, c'est quelque chose que je suis capable de le faire. Donc voilà, tout simplement, j'ai de nouvelles opportunités simplement en m'ayant mis disponible sur LinkedIn. Et du coup, je le redis, tout ça vient pas de nulle part, hein. C'est beaucoup plus facile d'avoir ces opportunités qu'on vienne vers vous quand vous avez beaucoup travaillé avant. Mais il y a quelque chose... Bah, en fait, j'aurais dû faire ça bien plus tôt déjà, parce que je crois que je suis parti un peu bille en tête que un entrepreneur, ça cherche ses clients. Mais en fait, il faut aussi être conscient qu'on arrive dans un milieu dans lequel bah, y a potentiellement des gens qui vous cherchent vous et des gens qui me cherchent moi. C'est-à-dire que il n'y a pas que le business, c'est pas que moi qui dois envoyer 600 mails pour trouver un organisme de formation qui veut bien m'inclure dans ses prestataires. Mais il y a peut-être déjà des organismes de formation qui cherchent des gens qui me ressemblent. Et ça, on ne peut pas le savoir si on ne se met pas sur le marché. Du coup, je devrais peut-être, j'avoue, essayer d'étendre ma recherche sur d'autres sites d'emploi en disant que je suis ouvert pour des systèmes freelance. Pour l'instant, je cours pas après les prestations, mais à noter que bah, j'ai oublié cette stratégie qui est pourtant évidente de saisir les opportunités de gens qui me recherchent moi. Voilà pour ce qui est de la rubrique thèse. Je vais pouvoir enchaîner sur la rubrique développement personnel. Alors là, c'est quelque chose que j'ai pensé en faisant le podcast. Donc voilà, bon, bah, je suis content, ça veut dire que je peux de plus en plus improviser. La contractualisation, j'ai essayé de vous sortir deux, trois trucs à vous dire. Là, pour le développement personnel, je ne savais pas trop comment l'exprimer, mais bah, je suis dans une bonne phase. Donc voilà, j'espère que vous aussi, et j'espère que vous serez content de l'entendre. En fait, ce que je comprends, c'est que j'ai totalement dissocié travail et plaisir de force, c'est-à-dire que je suis parti du principe que le travail n'était pas du plaisir tout seul, ce qui est une grosse erreur, et en plus c'est une énorme erreur pour un psychologue du travail. Donc rassurez-vous, si vous êtes de potentiels gens intéressés pour que je sois psychologue du travail dans vos structures, je sais très bien que c'est pas comme ça qu'on fait avec les autres. Mais entre ce qu'on préconise pour les autres et ce qu'on fait avec soi-même, il peut y avoir un monde, et je suis dans ce monde-là. Donc, en effet, je me comportais comme le plus mauvais des chefs d'entreprise vis-à-vis de mes employés, sachant que je suis et chef d'entreprise et employé. Et ben, je me suis mis dans le mauvais contexte où, en fait, je me suis dit que si c'est une tâche chiante, c'est du travail. Si c'est une tâche de plaisir, c'est du repos. Et en fait, à la seconde où je sentais qu'il y avait quelque chose autour de la productivité ou de l'amélioration personnelle. J'envisageais ça comme du travail. Et en fait, à partir de là, ça veut dire que même si je veux me réentraîner un instrument de musique et que j'ai envie de le faire de manière précise, organisée, tous les jours, pendant une heure, etc., et bah dans ma tête, ça devient du travail. Donc si ça devient du travail, il faut que je m'accorde des moments de pause. Mais donc, dans ces moments de pause, il n'y a pas de musique, chose qui est quelque chose qui me fait plaisir, voilà. Donc, en fait, dans toutes les tâches, même, par exemple, marcher, ça devenait... Bon, c'est grossier de dire que ça devenait du travail, mais ça devenait aussi chiant et obligatoire que du travail. Et en fait, j'ai perdu la notion de plaisir et de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je pense que vous le voyez, hein, ce tournant depuis le début de la saison. Mais pareil pour la méditation, en fait, c'est extrêmement différent de faire les choses tous les jours et de se pousser un peu parce qu'on sent que ça nous fait du bien, plutôt que de juste se dire « je dois marcher, je dois faire de la méditation tous les jours, je le ferai et c'est tout ». Et je pense qu'il y a une intrication, et il y a quelque chose que j'ai pas compris autour de « certes, il faut être discipliné, mais il faut être amoureux de sa discipline », c'est-à-dire qu'il faut savoir pourquoi on fait les choses. Et là, depuis quelques jours, que je me suis dit « mais attends, arrête de réfléchir à ce qui est productif, pas productif, travail, pas travail. Par exemple, le podcast. En fait, rien que le fait de me dire que je dois faire un podcast tous les jours, ça devenait une ligne des choses à faire, et je le voyais comme du travail. Et en fait, là, de me redire, mais attends, est-ce que t'aimes faire ton podcast? Oui. Eh bah, fais-le, et ne considère pas forcément ça comme du travail. Eh bah, ça change tout. Ça peut vous paraître bête, je sais pas à quel point je dis quelque chose qui est... Normalement, je suis assez clairvoyant si c'est des choses qui sont partagées ou pas. Là, je sais pas du tout, donc je sais pas si ça vous paraît archaïque, mais en tout cas, moi, j'en suis là à me dire, en fait, je croyais que tout ce qui n'était pas travail devait être du repos, sauf que dès que je fais autre chose dans ma vie, j'essaye quand même d'être discipliné, faire un podcast toutes les semaines, faire du sport X fois par semaine, etc. Donc tout ça, ça passait virtuellement dans la case travail, ce qui fait que quand j'étais dans une phase de repos, je savais plus quoi faire. Parce que si je faisais de la musique, bah, en fait, ça me lançait dans des pressions de si je fais de la musique, je dois faire ça, je dois faire X exercices. Même les jeux vidéo. Dans un certain jeu vidéo, Céleste, je crois que je vous l'avais partagé, je souhaite faire un speedrun et donc si je le fais, en fait, et du coup, à tout challenger, tout mesurer, tout contrôler, en oubliant de me dire si tu as envie de faire les trucs, fais-les. J'ai perdu la notion de plaisir et de repos par les activités plaisantes. Et donc, en fait, quand je me disais ce week-end il faut que je me repose, le repos c'était rien du tout. C'était l'ennui total ou juste regarder des vidéos YouTube parce que faire quelque chose c'était du travail. Voilà, je sais que je me répète, mais cette fois-ci c'est volontaire parce que même moi je suis pas sûr d'être clair, même pour moi. Je vais donner un dernier exemple et ensuite je me tais, je vous rassure. C'est la production musicale sur ordinateur. Étant donné que ça ressemble à une activité productive où on fait quelque chose, je m'interdisais de le faire les week-ends parce que je me disais, non, tu dois être tranquille, tu dois te reposer. Et ça, c'est faire une activité qui peut demander de l'efficacité, de la réflexion, et il faut que tu te reposes. Sauf que à enlever chaque activité qui finalement me font plaisir parce que en fait il y a une notion potentiellement de faire quelque chose, on perd totalement le sens du repos. et je crois que c'est ça un peu la boucle dans laquelle j'étais. Et inversement, autre exemple, mes excuses, mais et inversement, mais c'est important, il y a des choses qui ont l'air d'être chiantes et du travail, mais que j'adore. Par exemple, j'arrivais plus vraiment à lire des articles scientifiques sur la confiance, parce que je l'ai fait en mode travail, c'est-à-dire je dois lire un article par jour. Et en fait, c'est pas la version disciplinée de moi-même qui a envie de lire, c'est la version non disciplinée. Donc en fait, j'aime lire et je m'interdisais par exemple de lire des articles scientifiques le week-end, parce que non, c'est le travail et là je dois faire une pause. Alors que si c'est vraiment mon kiff de lire des articles et que là, un samedi matin ou un dimanche matin, j'ai envie de lire 3-4 articles sur ma thèse, je pense que je devrais me le permettre en fait. Et la version plaisir contre travail, ce serait de me le permettre sans objectif, sans pression. Si j'en ai marre au bout de 10 minutes, j'arrête au bout de 10 minutes. Mais par contre, si je tombe dans un tunnel où je suis passionné de lecture pendant 4 heures un samedi matin, je le fais. Et donc, j'ai mis du temps pour cette thématique, mais je vous assure que c'est difficile à exprimer pour moi parce que c'est un mécanisme sur lequel je viens de porter mon attention. Et donc, tout ça m'amène à conclure et à reboucler sur mon développement personnel qui est assez bon en ce moment parce que j'ai toutes ces choses-là en tête, beaucoup plus fluide qu'avant, en me disant, mais en fait, pour te reposer, tu peux faire quelque chose qui ressemblait à du travail avant. Pour travailler, tu peux faire quelque chose qui ressemblait à du repos avant. Et en fait, il faut arrêter de se dire que juste si je fais une activité qui est dure, j'appelle ça travail. Et si je fais une activité où je branle rien, j'appelle ça repos. Il y a beaucoup de choses qui sont entre les deux. Et je vais essayer d'aller les chercher et d'aller vers une articulation beaucoup plus fluide entre activité je sais même plus, du coup, entre activité productive et repos, sans me dire non, ça c'est du travail, et si ça rentre dans du travail, ça doit être dans mes 8 heures de travail allouées, et t'as pas le droit de le faire à telle heure, enfin voilà. Bref, je vais arrêter de tourner en rond, dans tous les cas, c'était la fin des idées que j'avais envie de vous transmettre cette semaine. Je vous remercie de votre écoute, n'hésitez pas à communiquer votre plaisir à m'écouter et à me voir sur YouTube. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, je vous souhaite une bonne semaine, et à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip.